Vous écoutez Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Isabelle Millet.
Nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois. Nous sommes et serons mobilisés dans la durée.
Emmanuel Macron demande aux Français de faire bloc face à l'épidémie de coronavirus qui, vous l'avez entendu, est amenée à durer. Pour y faire face, l'État français va réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection pour éviter la pénurie. Un rappel, ne pas appeler le SAMU sans raison sérieuse. Le standard du 15 est débordé et les vraies urgences sont pénalisées. On va faire le point dans ce journal sur les toutes dernières infos. La France reste au stade 2 de l'épidémie. Quant aux rencontres sportives, pour l'instant, on ne touche pas à la sacro-sainte Ligue des champions, mais les matchs pourraient se jouer à huis clos, ça n'est pas encore décidé. Le gouvernement, face à deux motions de censure à l'Assemblée en ce moment, accusé sur sa droite comme sur sa gauche d'un fiasco sur les retraites, les débats s'éternisent. On sera en direct de l'Assemblée nationale dans un instant avec Adrien Beck. L'Europe déploie les grands moyens à la frontière grecque pour empêcher un afflux massif de réfugiés.
La situation à la frontière, ce n'est pas les Grecs seuls qui doivent s'en occuper. C'est la responsabilité de toute l'Europe.
Les mots de la présidente de la Commission européenne. On rejoindra Pierre Herbulot, l'envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière. Et puis on sera aussi aux États-Unis, où tout se joue, ou presque, en ce moment, dans la course à la Maison-Blanche, en ce Super Tuesday de la primaire démocrate. Côté météo, ça souffle fort dans le sud-ouest ce soir. Attention, demain, c'est une nouvelle perturbation pluvieuse qui va nous arriver par l'ouest. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants qui regroupe les restaurateurs, les hôteliers, les traiteurs. Autour de cette question, comment aider les entreprises victimes du coronavirus ?
Europe 1.
Et le bilan de l'épidémie de coronavirus, justement, s'élève donc désormais à 4 morts, puisqu'un homme âgé de 92 ans est mort aujourd'hui dans le Morbihan. C'est l'un des 3 foyers importants de propagation de l'épidémie, avec l'Oise et la Haute-Savoie. À ce stade, 212 cas sont confirmés, c'est 21 de plus qu'hier. Dans le Grand Est, 7 cas recensés, dont 5 qui appartiennent à la même famille. C'est une contamination qui a eu lieu, semble-t-il, lors d'un rassemblement religieux évangélique, auquel ont participé plusieurs milliers de personnes dans la commune de Bourg-Villers, près de Mulhouse. Du 17 au 24 février, les autorités sanitaires demandent donc aux personnes qui ont participé à ce rassemblement et qui ressentent actuellement des symptômes, les invitent donc à contacter le numéro 15. Emmanuel Macron s'est rendu cet après-midi au centre opérationnel du ministère de la Santé qui coordonne la gestion de cette crise. Il a demandé aux Français avant tout de faire bloc.
Dans cette période que nous vivons et que nous allons vivre, parce que nous sommes rentrés dans une phase qui va durer des semaines et même sans doute des mois, il est indispensable d'avoir la clarté, la résilience, le sang-froid et la détermination pour freiner d'abord l'épidémie, ce que nous sommes en train de faire, puis lutter contre celle-ci. Et les agents de l'État, l'ensemble des fonctionnaires, jouent un rôle absolument essentiel. Et je sais pouvoir compter sur eux. Et à travers vous, je veux ici les en remercier parce que nous devons à nos concitoyens la continuité du service public. Faire bloc, c'est ce que nous devons à notre pays. Nous devons tous avoir conscience que nous sommes et serons mobilisés dans la durée.
Le président qui a également annoncé aujourd'hui que l'État français allait réquisitionner tous les stocks et la production de masques de protection afin de les distribuer aux soignants et aux personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont atteintes du coronavirus. Théo Manval, qu'est-ce qui justifie cette décision ?
Eh bien, le gouvernement veut s'assurer que l'on puisse fournir ces masques uniquement à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire, on le rappelle, les malades et le personnel soignant. Le ministère de la Santé veut mettre fin à cette ruée dans les pharmacies de gens qui ne sont pas malades, mais qui veulent à tout prix un masque et qui accentuent donc le risque de pénurie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'État va d'abord réquisitionner tous les stocks déjà existants, tous les FFP2 déjà sortis des lignes de production. Ils vont s'ajouter au stock de l'État, qui sont aujourd'hui d'environ 145 millions de masques, mais essentiellement des masques chirurgicaux, donc beaucoup plus basiques. Et ensuite, l'État va donc réquisitionner l'ensemble de la production des 4 entreprises qui fabriquent ces FFP2 en France. Aujourd'hui, c'était le cas pour une partie seulement de cette production que le gouvernement espérait à 35-40 millions de masques par mois.
Météo, ces masques, comment seront-ils distribués à ceux qui en ont vraiment besoin ?
Alors les médecins, ce sera distribué par l'État via les agences régionales de santé, ça a déjà commencé. Pour les malades, ils récupéreront le masque en pharmacie, mais uniquement sur prescription de leur médecin. Prescription attestant qu'ils ont des symptômes qui requièrent le port de ce masque. et ce masque, il sera gratuit. Ça devrait éviter que ça ne se vende très cher, hein, comme aujourd'hui où on voit certaines officines les vendre à 3,50 € la pièce.
Les précisions de Théo Manval pour Europe 1, alors que l'on apprend que des milliers de masques de protection, justement, mais aussi des flacons de gel hydroalcoolique, qui sont essentiels, hein, bien sûr, pour endiguer l'épidémie, ont été dérobés ces derniers jours dans les hôpitaux publics à Paris et à Marseille. Et puis c'est un témoignage que vous avez peut-être entendu ce matin sur Europe 1, celui de notre grand reporter Jean-Sébastien Soleini, qui nous racontait sa difficulté à joindre le 15, lui qui revient d'Iran, pays à risque, et qui est en quatorzaine chez lui. Hier soir, donc, Jean-Sébastien s'inquiétait d'un début de toux. Il a logiquement appelé le SAMU, un vrai parcours du combattant.
26 minutes d'attente en ayant seulement une personne au bout du fil. Elle prend mes coordonnées, puis l'appel est coupé. Deuxième essai, même chose. Troisième essai, là encore infructueux. Le SAMU m'a finalement rappelé 4 heures après mon premier coup de fil.
Ça, c'était ce matin sur Europe 1. Et forcément, ce témoignage interpelle. Le 15, surchargé d'appels, a-t-il les moyens de faire face? Écoutez la réponse ce soir du directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis, le professeur Frédéric Adnet.
Le SAMU a une augmentation extrêmement importante de son activité. Et là, on est à pratiquement 3000 appels par jour, avec entre 400 et 600 appels liés au coronavirus. Mais on tient, on n'est pas encore en saturation, on répond aux appels. Mais c'est vrai qu'on subit, si vous voulez, la première vague des patients dus à cette épidémie. Cet afflux d'appels, on a réussi à trier les patients et à n'amener à l'hôpital que les patients qui le nécessitaient. Donc on a tenu notre rôle, c'est difficile, on est sous tension, on fait du rappel de personnel, mais on tient. On arrive à répondre dans 90% des cas dans un délai raisonnable, moins de 90 secondes, mais on répond à tous les appels.
Le directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Et s'agissant de notre reporter Jean-Sébastien Soleini, il a finalement eu la consigne de rester chez lui en surveillant bien sûr régulièrement sa température ou la venue d'éventuels symptômes. Le coronavirus qui inquiète les entreprises, on le dit depuis plusieurs semaines déjà, Bercy anticipe un ralentissement de l'activité. Après une première série de mesures la semaine dernière, le gouvernement va encore renforcer le dispositif de soutien à ces entreprises dont l'activité est pénalisée, avec notamment des démarches simplifiées en cas de recours au chômage partiel. On y reviendra avec l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du groupement national des indépendants, hein, qui regroupe les restaurateurs, les hôteliers ou encore les traiteurs autour de cette question précisément: comment aider les entreprises victimes du coronavirus? De son côté, la Fed, la Banque centrale américaine, a pris une décision symbolique et rare aujourd'hui. Elle a décidé de baisser ses taux d'un demi-point. Didier Hamot de Boursier.com nous expliquera dans 10 minutes que cette annonce n'a pourtant pas redonné de couleur aux places financières. Il nous expliquera pourquoi. Et puis le report en pagaille d'événements publics, ça continue. Après le salon du tourisme et celui du livre, annulation cette fois aujourd'hui du salon du body fitness ou encore de celui du sandwich. Ce soir, on apprend par ailleurs que les sorties en France de deux longs métrages, Miss de Ruben Alves et Rox de Sarah Gavron, ont été repoussées par leurs producteurs en raison de l'épidémie qui a entraîné la fermeture par arrêté préfectoral de 145 salles de cinéma dans l'Oise et dans le Morbihan. Le coronavirus qui s'invite aussi au menu des instances sportives. Les autorités du sport s'interrogent sur le maintien des compétitions. On a vu certains matchs de foot se jouer à huis clos en Italie ou encore le championnat de foot suisse, hein, carrément annulé. Ces mesures doivent-elles se généraliser? Interrogation notamment sur les prochains matchs de Ligue des Champions, y compris pour le PSG la semaine prochaine. Cyril de la Morinerie, vous êtes à Amsterdam où s'est réuni aujourd'hui le congrès de l'UEFA, l'autorité européenne du foot. La décision qui a été prise, Cyril, eh bien, c'est de maintenir tous les matchs.
Oui, pour l'instant, on ne touche pas à la sacro-sainte Ligue des Champions. Les matchs sont maintenus, notamment PSG-Dortmund, prévu le 11 mars prochain au Parc des Princes. Incertitude, en revanche, sur la présence ou non du public. Le huis clos est une hypothèse, a déclaré la ministre des Sports ce matin au micro d'Europe 1. Quoi qu'il en soit, ici à Amsterdam, les dirigeants de l'UEFA rappellent qu'ils suivront les directives des États, même si leur souhait, c'est de jouer, explique le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.
Il y a beaucoup de cas, mais ceci dit, annuler les matchs, c'est ajouter à la panique, je crois. Moi, je fais plutôt confiance au ministre de la Santé et à ceux qui ont le privilège d'être des connaisseurs. On ne dépassera pas les ordres que nous recevons.
Et contrairement à la Suisse, qui a suspendu son championnat jusqu'au 23 mars prochain, la Ligue 1 maintient ses matchs, et cela afin d'éviter un véritable embouteillage dans le calendrier à 100 jours seulement du début de l'Euro. Le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.
Nous, ce que l'on souhaite, c'est de perturber le moins possible le calendrier, et à chaque fois de trouver une solution qui permettent de jouer les matchs.
Enfin, l'Euro de football qui se déroulera dans plusieurs pays, mais qui débutera en Italie, pays européen le plus touché par le coronavirus, se tiendra bien aux dates prévues.
Cyril de la Morinerie en ligne d'Amsterdam pour Europe 1. Huit clos confirmés ce soir en revanche pour le 8e de finale. Retour entre Valence et le club italien de l'Atalanta Bergame. Et puis des nouvelles consignes en vigueur. Les joueurs ne doivent plus se serrer la main. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur l'évolution de cette épidémie et ses conséquences sur notre vie quotidienne. Notez que deux conseils de défense spéciaux se tiendront demain. L'un consacré au coronavirus, l'autre à la Syrie. Et pendant ce temps-là, l'Iran annonce la libération de 54 000 prisonniers pour limiter la propagation de l'épidémie dans ses prisons surpeuplées. Le régime précise que les prisonniers condamnés à des peines de plus de 5 ans resteront derrière les barreaux.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h10, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et quelques milliers d'opposants à la réforme des retraites ont encore manifesté aujourd'hui un peu partout en France. Des cortèges peu fournis, alors que le projet de loi de réforme des retraites doit être adopté théoriquement dans la soirée en première lecture à l'Assemblée, après le rejet probable des deux motions de censure qui ont été déposées par la droite et par la gauche pour protester contre le recours au 49-3. Adrien Beck, vous suivez ces débats pour Europe 1 avec des oppositions à l'offensive.
Oui, ce 49-3 tribune pour charger le gouvernement. La France insoumise s'y est employée. Le 49-3 déclenché par le Premier ministre, responsabilité du Premier ministre. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
L'obstruction parlementaire, c'est vous. Les marcheurs, vos odieuses méthodes, vos provocations, vos grossièretés.
À droite, on dénonce un pas de deux, gouvernement, opposition de gauche, mais ce 49-3 sera le Waterloo politique du gouvernement pour le patron des députés LR, Damien Abad.
Qu'une réforme que le gouvernement présente lui-même comme la plus importante de ce quinquennat puisse ne jamais être votée à l'Assemblée nationale, ni en commission spéciale, ni en séance publique, c'est du jamais vu depuis la réforme constitutionnelle de 2008 et nous ne pouvons l'accepter.
Le 49-3, Édouard Philippe ne s'y attarde finalement pas. Il mène presque un discours de politique générale et attaque ceux qui refusent la réforme, gauche et droite incluses.
Ceux qui défendent le statu quo, et ils ont parfaitement le droit de le défendre, racontent bien trop souvent des calembres d'aine. Ils se payent de mots.
Un discours d'une cinquantaine de minutes. Édouard Philippe se tourne ensuite vers le perchoir. « J'ai été un peu long », dit-il au président Richard Ferrand, qui lui répond « Oui, mais exhaustif ».
Adrien Beck à l'Assemblée nationale pour Europe 1. L'actualité, c'est aussi le Sénat qui a voté ce soir à l'unanimité la proposition de loi qui porte à 15 jours contre 5 à présent le congé pour le deuil d'un enfant de moins de 25 ans. Sujet, on s'en souvient, qui avait fait l'objet d'un gros couac au sein de la majorité à l'Assemblée. L'Union européenne a dépêché aujourd'hui en urgence de hauts responsables en Grèce pour protester contre sa décision de laisser passer les migrants. Vous y étiez également pour Europe 1, Pierre Herbulot. Depuis que la Turquie ne sécurise plus sa frontière, des milliers de candidats à l'exil se massent pour tenter justement d'entrer sur le sol européen.
Oui, la délégation n'est pas venue les mains vides dans la petite ville frontalière de Kastaniès. Pour aider la Grèce à gérer la crise migratoire, l'Europe va verser un chèque de 700 millions d'euros, dont la moitié tout de suite. En plus du financier, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a également promis des moyens humains et matériels. Une centaine d'hommes de la brigade Frontex, des hélicoptères, des bateaux et des véhicules.
La situation à la frontière, ce n'est pas les Grecs seuls qui doivent s'en occuper. C'est la responsabilité de toute l'Europe. Et nous allons nous en occuper avec unité, solidarité et détermination. Ceux qui cherchent à tester notre unité seront déçus.
La délégation européenne qui, quelques heures plus tôt, a visité le poste frontière en compagnie du Premier ministre grec, des habitants applaudissent au passage du convoi. Ils ont agi très vite, se réjouit Costas. Grâce à ça, les migrants n'ont pas pu rentrer en Europe, dit-il devant les grilles qui se referment. Contre l'avis des Nations Unies, le gouvernement a décidé de suspendre pendant un mois toute demande d'asile. Le député local se justifie.
On fait
ça pour l'Europe, explique-t-il aux Grecs qui vivent près de la frontière et qui, pour la plupart, n'avaient pas besoin d'être convaincus.
Pierre Herbulot, envoyé spécial d'Europe 1, donc à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Aux États-Unis, c'est le Super Tuesday. 14 États votent pour choisir le champion démocrate. Étape déterminante des primaires pour départager le favori Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden. Xavier Yvon, vous êtes notre correspondant sur place. À l'issue des résultats, on devrait y voir un peu plus clair sur qui peut l'emporter.
Oui, alors ce qui est à peu près sûr, c'est que Bernie Sanders va sortir vainqueur de ce Super Tuesday. La question, c'est avec quelle ampleur ? Soit le vieux sénateur du Vermont écrase la concurrence, notamment en Californie, le gros lot en nombre de délégués, et alors là, Bernie Sanders sera difficile à rattraper. Autre scénario, Joe Biden arrive à limiter les dégâts, à remporter notamment les États du Sud avec le vote noir. Et là, la suite de la primaire, ce sera un duel Biden-Sanders. L'ancien vice-président d'Obama est optimiste, il ressuscite depuis sa victoire en Caroline du Sud samedi. Et hier, deux importants rivaux ont abandonné la course pour se ranger derrière lui, le jeune Pete Buttigieg et la sénatrice Amy Klobuchar, les démocrates centristes unis pour faire barrage à Bernie Sanders. Selon eux, il est trop à gauche pour battre Donald Trump. Erreur, leur a répondu tout à l'heure Bernie Sanders après avoir voté dans son état du Vermont.
Si vous voulez battre Donald Trump, notre campagne, c'est la campagne pour le faire. On a le mouvement populaire dans tout le pays. Et pour battre Donald Trump, on a l'énergie, l'enthousiasme. C'est notre campagne qui fait ça.
Et c'est vrai que pour y avoir assisté, les meetings de Bernie Sanders sont les plus électrisants. Reste une inconnue dans ce Super Tuesday, le candidat de dernière minute, le milliardaire Mike Bloomberg, qui a dépensé $500 million pour créer la surprise.
Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Puis un dernier mot pour vous dire qu'on a appris ce soir la disparition de Nicolas Portal. C'est un grand nom dans le monde du cyclisme. Il avait 40 ans, il a succombé à un arrêt cardiaque. Directeur sportif d'Ineos, aux 6 victoires sur le Tour de France. On jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Ça souffle ce soir dans le sud-ouest et demain, une nouvelle perturbation arrive.
Oui, c'est une perturbation pluvieuse assez active, Isabelle, qui arrive par l'ouest demain. Alors, de la façade atlantique jusqu'aux Pyrénées, là, le ciel est très couvert dès le début de la journée avec des pluies régulières qui vont durer tout au long de la journée. De la Normandie aux Hauts-de-France, là, c'est un ciel avec beaucoup de nuages, des nuages qui dominent et qui vous apporteront des pluies beaucoup plus passagères et éparses que sur la façade atlantique. Sur les côtes de la Manche, la Bretagne, la Vendée, le Pays Basque, le Languedoc et le littoral marseillais, et même jusqu'en Corse, c'est le vent d'ouest qui souffle demain à 60 km/h en moyenne. Les températures, comptez 2 à 7 degrés de la Normandie aux Pyrénées et au bord de la Méditerranée, moins 1 à 4 sur le reste du pays. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 8 degrés à Aurillac, 10 à Paris et Lille, 12 à Nantes et Cahors, 14 pour Marseille et 17 à Bastia.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le président du Groupement National des Indépendants. On parlera des entreprises et du coronavirus. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17 et comme tous les soirs sur Europe 1, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Il y a pas mal de choses à dire ce soir, hein, puisque oh oui. Wall Street termine dans le rouge finalement, malgré la baisse des taux de la Banque centrale américaine qui a été annoncée cet après-midi. On en parlait tout à l'heure dans le journal.
Oui. Hier, les marchés anticipaient un coup de pouce de la part des banques centrales. Ils l'ont eu dès aujourd'hui, même c'est arrivé plus tôt que prévu cet après-midi avec cette baisse de 0,5 points des taux de la réserve fédérale américaine. Et comme souvent, les marchés ont acheté la rumeur hier. Ils ont fait monter les indices de plus de 5% en anticipant cette annonce. Ils l'ont eu aujourd'hui, donc cette annonce, et ils vendent la nouvelle ce soir. Ça rechute de 2,95%. Donc on redonne une partie du terrain gagné hier. Le Dow Jones, moins 2,95%. Le Nasdaq, moins 2,99% à 8684 points. Certains analystes sont très critiques ce soir en parlant de précipitation de la part de la Réserve fédérale, voire même de panique. La Banque centrale n'a donc pas attendu sa prochaine réunion. Elle était fixée au 18 mars dans deux semaines. La Fed a préféré agir donc dans l'urgence. D'autres estiment que la Réserve fédérale plie sous la pression de Donald Trump et de son agenda politique. Trump, ce soir, qui réclame d'autres baisses des taux, toujours plus gourmands.
Ce que vous nous dites, c'est que ça a eu un effet contraire, celui qui était escompté, en fait.
Oui, alors finalement, c'est toujours pareil. C'est une bonne nouvelle, évidemment, de baisser les taux, mais c'est plutôt mal interprété. Et ça avait été anticipé. Donc, globalement, on est dans le rouge avec des baisses des valeurs qui retombent. C'était bien monté hier soir. Ça retombe de 3% sur Apple, Microsoft moins 4,7%, IBM moins 4%. Le tarif est le même pour tout le monde. Autour de 4% de baisse sur Intel, sur Netflix. Apple, on l'a dit, moins 3% à $289. Le pétrole se cale sur les $52 le baril. Et puis l'euro remonte encore puisque les taux ont baissé aux États-Unis, mais pas en Europe pour l'instant. Donc l'euro remonte à 1,1175 face au billet vert.
Et Didier, la Bourse de Paris, elle a aligné une deuxième séance de hausse, mais sans convaincre.
Vraiment. Oui, on est en décalage. Hein. Ça risque de rebaisser demain. Le CAC 40, qui était en forte hausse ce matin, finalement a perdu, au fil de la séance, a perdu de la hauteur pour gagner 1,12% à 5393 points. Quelques valeurs remontent encore quand même. Hein. Ça reste fragile, mais ça remonte sur Essilor, plus 5%, sur Somfy, plus 4%, Airbus aussi, plus 4% avec Ipsos, et puis Interparfum, plus 3%, après des comptes bien reçus, même si la situation sanitaire va faire reculer le chiffre d'affaires d'Interparfum au premier trimestre de 10%, selon la direction du distributeur de parfums.
Alors, exception du jour, c'est le secteur bancaire qui, lui, n'a pas suivi le mouvement de hausse.
C'est assez logique. La baisse des taux n'arrange pas les affaires des banques. Les marges baissent quand les taux baissent et les banques ont déjà du mal à s'en sortir avec des marges très faibles. Et ça donne ce soir la Société Générale en baisse de 3%. Tout le secteur est en baisse. Hein. Le Crédit Agricole, moins 2,3%. On a Natixis, moins 3%. BNP Paribas, moins 1,5%. Tout le secteur financier a rechuté après l'annonce donc, de cette baisse des taux de la Réserve fédérale. Et sans doute des baisses maintenant à venir en Europe. Sur les autres places financières, donc à Francfort, on est remonté quand même d'1%. Madrid, plus 0,8%. Milan, un tout petit 0,4% de mieux. Et donc le CAC 40 ce soir en hausse d'1,12%, 5393 points.
Eh bien, merci pour ce tour d'horizon très complet, Didier Hamot de Boursier.com. Et c'est l'heure de l'invité éco. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir le président du Groupement National des Indépendants.
Bonsoir Didier Chenet.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du GNI, c'est le Groupement National des Indépendants qui regroupe les restaurateurs,
les hôteliers,
etc. etc. Vous étiez ce matin au ministère de l'économie avec notamment Bruno Le Maire pour faire le point sur l'impact économique de ce coronavirus. De façon très pragmatique, quel est dans votre secteur, restauration, hôtellerie, traiteur, l'impact pour le moment de cette épidémie ?
Alors, sur tous les adhérents que nous avons interrogés, vous avez un tiers qui disent déjà ressentir l'impact. Et pour Paris, c'est la moitié qui vous disent on ressent déjà l'impact. Et globalement, parce que là, ce n'est qu'une moyenne, après je descendrai dans le détail, on est vers une baisse de l'ordre de 15 à 20%.
Ce qui résiste à peu près pour le moment, à l'exception des restaurants asiatiques, c'est le secteur de la restauration.
Oui, il résiste un peu mieux. La baisse n'est que de l'ordre, je dis bien que de l'ordre de 10% à peu près. C'est essentiellement le soir où nous manquons de clients, donc clientèle d'affaires, clientèle un peu touristique. Mais pour l'instant, c'est ce qui résiste le mieux.
Vous parlez de la clientèle d'affaires. Du coup, de facto, j'imagine que le secteur le plus touché, ce sont notamment les traiteurs qui, eux, travaillent en grande partie hors période de mariage avec les congrès et tout ce genre
absolument.
De choses.
Absolument. C'est un secteur qui est vraiment extrêmement touché. Nous sommes très inquiets pour cette profession. Rien que sur janvier-février, c'est moins 20% d'activité. Et mars-avril, compte tenu de toutes les annulations des salons, les cascades d'annulations, c'est entre 30 et 40% de baisse de chiffre d'affaires. Et là, c'est très impressionnant.
Quand on parle de baisse de chiffre d'affaires, c'est des baisses de chiffre d'affaires qui ne sont pas compensé. J'imagine que le traiteur, il n'est pas assuré pour épidémie de coronavirus.
Non, il n'est pas assuré et malheureusement, c'est une perte sèche pour lui. Peut-être que certains salons seront reportés, mais encore faut-il que tout cela soit vérifié. Pour l'instant, on est dans le flou. Non,
est-ce que les entreprises aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, sont au bord du gouffre ?
Oui, certaines entreprises, absolument. Je n'hésite pas à le dire. S'il n'y a pas des mesures véritablement de sauvegarde, on parlait d'un fonds de solidarité pour venir en aide à ces entreprises, je pense que certaines entreprises vont disparaître.
Alors justement, ce matin, vous étiez en réunion avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Est-ce que vous le sentez prêt à apporter des mesures là tout de suite d'aide
oui,
à ces entreprises.
Nous avons insisté sur trois mesures qui pour nous sont très importantes dans la mesure où nous sommes des PME. La première des mesures, c'est un moratoire sur le remboursement des emprunts. Après les gilets jaunes et les grèves que nous avons connues, les trésoreries sont exsangues. Les entreprises ne pourront pas rembourser le capital des emprunts. La deuxième mesure que nous demandons concernant notre secteur, et particulièrement les traiteurs, mais aussi pour les hôteliers, c'est la suspension de cette taxe de 10 euros par contrat d'extra.
C'est une taxe qui avait été mise en place dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur pour, à la base, hein, certains peuvent estimer que ce soit totalement vertueux, pour essayer de faire en sorte que l'on limite le recours au contrat court.
Tout à fait. Mais cette taxe nous est tombée dessus au mois de septembre et application au 1er janvier.
Donc là, vous demandez la suspension de
nous
cette taxe.
Nous demandons la suspension immédiate. Monsieur le maire, ce matin, a dit « on va mettre le paquet ». Mais moi, je lui ai dit « le paquet, monsieur le maire, eh ben voilà ». Ça fait partie du paquet.
Mais quand vous lui parlez suspension de cette taxe, qui dépend hein, logiquement plutôt du ministère du Travail, oui. Donc je pense qu'il ne peut pas vous dire oui ou non tout de suite, mais il vous dit plutôt un oui plutôt ou non, ça va être compliqué, M. Chenet.
Écoutez, c'est pas la première fois que je lui pose la question. Lorsqu'il a fait le récapitulatif des solutions qu'il fallait apporter et des mesures qu'il fallait apporter, il a mentionné cette fameuse taxe.
Alors vous avez parlé de trois mesures, il en manque une, je pense.
Oui, qui concerne nos salariés et nos saisonniers. Car c'est extrêmement grave aujourd'hui. Compte tenu de l'activité, nous allons avoir des contrats qui ne vont pas faire les 6 mois. Vous savez que la réforme de l'assurance chômage
nécessite de devoir travailler
6 mois pour bénéficier donc de l'indemnité chômage. Là, on va se retrouver avec des saisonniers qui vont avoir fait 4-5 mois d'activité et qui ne pourront pas en bénéficier.
Donc là aussi, même si c'est une mesure, là aussi, j'imagine, qui dépend du ministère du Travail, oui. Vous l'avez senti sensible ?
Écoutez, je pense. En tous les cas, il en va véritablement d'une décence vis-à-vis de ces salariés, que l'on puisse faire quelque chose. Nous ne demandons pas l'abrogation, nous demandons la suspension pour exceptionnellement
pour cette
année.
Mais est-ce que ça suffit ? Parce que là, on parle d'un moratoire. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra bien payer un moment les emprunts. On parle de suspension. Ça ne fait pas faire des économies. Les Italiens viennent de mettre 3,6 milliards d'euros sur la table pour aider leurs entreprises impactées. C'est pour le moment, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement est au rendez-vous de l'ampleur de la tâche ?
Écoutez, je pense que tout n'est pas encore mis sur la table. C'est pour ça que je vous parlais d'un fonds de solidarité. De combien de milliards, je ne sais pas. Mais il faudra certainement venir en aide. Les simples mesures, effectivement, de suspendre ou de repousser les échéances ne suffiront pas. Il faudra véritablement faire un effort et venir en aide aux entreprises.
Mais est-ce que vous avez une date de réponse ? Puisque c'est bien gentil de faire des réunions. Il y en a une vendredi au ministère du Travail, une ce matin à Bercy. On vous rencontre, on parle avec les organisations patronales et syndicales, mais on n'agit pas énormément pour le moment.
J'ai le sentiment, pour avoir rencontré M. le maire il y a 15 jours auparavant, je pense que la prise de conscience devient de plus en plus effective. Je ne vous dis pas aujourd'hui qu'on a eu suffisamment de réponses à nos attentes, à nos inquiétudes. Je pense que maintenant, vu la difficulté, vu l'ampleur et surtout les cascades d'annulations qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation très compliquée et très difficile, je pense que le gouvernement saura donc prendre les mesures. En tous les cas, nous y serons vigilants parce que sinon, vous l'avez dit, mais nous aurons un certain nombre d'entreprises qui seront amenées à fermer, à mettre la clé sous le paillasson.
Pour le moment, ce sont les événements de plus de 5000 personnes qui sont annulées en France. Est-ce que ce matin, le ministre vous a laissé entendre que si l'épidémie devait s'aggraver, on pourrait descendre en dessous de ce chiffre ?
Il n'a pas été en mesure de me répondre dans la mesure où ce n'est pas...
Mais vous lui avez posé la question ?
Absolument.
Et il ne vous a répondu ni oui ni non ?
Ni oui ni non, c'était du ressort du ministère de la Santé.
D'accord. Donc la piste n'est pas totalement écartée, c'est ce que vous avez entendu ce matin. Un grand merci Didier Chenet, vous êtes le président du Groupement National des Indépendants, qui regroupe donc, on l'a compris, restaurateurs, hôteliers et traiteurs. Merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Une jeune femme portant un masque à la une de La Croix. On commence à en avoir l'habitude. Et ce titre, face au coronavirus, les armes de la démocratie. Contre les peurs suscitées par l'épidémie de Covid-19, les autorités tentent de concilier efficacité et respect des libertés. Coronavirus, le branle-bas de combat, titre Libération, réquisition de masques, continuité des services publics, scénario gradué. L'exécutif se met en marche, en état de marche face à l'extension inéluctable de l'épidémie. Coronavirus, la riposte économique pour les échos. La Fed opte pour un traitement de choc en baissant ses taux. Les marchés restent fébriles, faute de réponse mondiale coordonnée. Bercy déclare l'urgence économique via des mesures pour aider les entreprises. Les municipales, ça se rapproche et on en parle dans le journal L'Opinion demain matin qui titre Dati Buzyn, le non-dit des alliances, avec un dessin très drôle de CAQ qui montre les deux candidates en tenue de cuisinière en train de touiller chacune une marmite pour battre Anne Hidalgo. La candidate LR et la chef de file macroniste au scrutin parisien devront passer des accords dans certains arrondissements. Au second tour, nous dit le journal, Au profit de laquelle des deux? Là est la question. 49-3 municipal, la majorité sous haute tension, titre pour sa part Le Figaro. Le passage en force de l'exécutif sur la réforme des retraites alimente les dissensions au sein du groupe macroniste, déjà fragilisé par des divergences stratégiques en vue des municipales. Et puis dans le journal La Montagne, Dominique Diogon revient quant à lui sur la situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie. La ficelle est grosse, le cou tordu, écrit-il. Mais quoi que l'on pense des dérives sultanesques du personnage, Recep Tayyip Erdogan est dos au mur et ne peut plus reculer. Avec 3,7 millions de réfugiés déjà présents sur son sol, son pays, miné par une crise économique et sociale, ne peut se permettre un nouvel exode massif. Son aventure militaire en Syrie se retourne contre lui et provoque une catastrophe humanitaire majeure. Le président turc n'a d'autre choix que d'abattre son atout maître, le chantage migratoire, procédé infiniment répugnant. C'est une arme thermonucléaire au potentiel dévastateur pour une Union européenne fragilisée. L'urgence, conclut le journaliste, est de faire bloc derrière Athènes, mais aussi de permettre à Erdogan de sauver politiquement la face, car la Turquie restera un verrou géostratégique capital. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie d'Olivier Delacroix, bien sûr, pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure, 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.